Bonjour, bienvenue dans le grand face-à-face de France Inter. Merci de nous écouter tous les samedis. Au sommaire de l'émission aujourd'hui, dans un instant, le duel Natacha Polony-Gilles Finkelstein, suivi du débat. Notre démocratie est-elle en danger? Et si elle était menacée par ses propres citoyens, tous ceux qui sont tentés par le populisme ou ceux qui vont jusqu'à rêver d'un pouvoir autoritaire en France? Et si Emmanuel Macron n'était finalement pas un rempart contre le populisme, mais l'incarnation d'une nouvelle forme de ce dernier, un technopopulisme? C'est la thèse qui est au cœur d'un essai qui vient de paraître, l'alerte démocratique, et c'est signé par l'économiste et historien Nicolas Bavret. Rendez-vous avec lui dans une vingtaine de minutes.
France Inter, le grand face-à-face. Ali Badou.
Le duel avec la directrice de Marianne, Natacha Polony, et le directeur de la Fondation Jean Jaurès, Gilles Finkelstein. Bonjour les amis.
Bonjour.
Bonjour.
Heureux de vous retrouver. Et pour commencer le duel, un grand homme.
Monsieur le Président, vous ne pouvez pas laisser les Allemands entrer dans Paris sans la moindre opposition.
Mais nous nous battons, vous le savez bien, et nous perdons.
En langage militaire, ça s'appelle une désertion.
Je ne vous permets pas, de Gaulle.
Quoi que nous fassions, cette guerre sera mondiale. Décidons de continuer le combat ailleurs. Les mots, ce sont les seules armes qui me restent.
J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance.
Charles de Gaulle par lui-même, Charles de Gaulle aussi incarné au cinéma par Lambert Wilson avec un biopic signé Gabriel Lebaumin et qui arrive en salle mercredi prochain. 2020, année de Gaulle, année qui marque un triple anniversaire, 130 ans après la naissance de Charles de Gaulle, 80 ans après l'appel du 18 juin 1940, 50 ans après la mort du grand homme ou de l'homme grand justement. On va en débattre. Qu'est-ce que ça veut dire, cette passion de Gaulle, Natacha? On a l'impression que le personnage qui pourtant a été controversé, qui a profondément divisé les Français, est aujourd'hui unanimement salué.
C'est sans doute à la fois pour les meilleures et les pires raisons. C'est-à-dire que je pense qu'il y a de la part de beaucoup de Français l'idée qu'il a été le dernier grand homme incarnant l'histoire. Et c'est tout le problème. En fait, la Seconde Guerre mondiale, la lutte de la France libre notamment, c'est notre dernière épopée. C'est-à-dire que c'est devenu une sorte de mythologie du peuple français, en partie du fait de Gaulle, qui a permis à la France de se perpétuer après une défaite absolument majeure, et une défaite dont on peut considérer, dont certains considèrent, c'est la thèse de Régis Debray, qu'elle a en fait achevé la France. C'est-à-dire la France est morte en juin 40, de Gaulle n'aurait fait que porter le cadavre par la suite et le maintenir à peu près droit. C'est un débat passionnant, mais
oui, c'est passionnant. C'est passionnant d'ailleurs de voir que même quelqu'un comme Régis Debray, qui était très très loin du gaullisme dans sa jeunesse, arrive aujourd'hui à, non pas réhabiliter, mais admirer cette figure-là.
Oui, mais parce que on peut être dans le combat politique dans la jeunesse, et puis après on entre dans le jugement historique. Et on peut commencer à essayer d'arbitrer à peu près. Mais je le disais, on est surtout entré dans la mythologie, et là pour le coup, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui tout le monde se réclame de Gaulle, tout le monde est gaulliste, en oubliant ce qu'est réellement la vision que cet homme-là a pu avoir de la France, de l'histoire, et c'est cela sur lequel il faudrait revenir.
On va en parler justement dans un instant, mais d'abord Gilles.
Oui, il y a une nostalgie pour de Gaulle. En revanche, savoir s'il y a une existence encore aujourd'hui du gaullisme, ou une trace du gaullisme, est moins évident. D'une certaine manière,
le gaullisme a disparu.
D'abord, la première question est de savoir, est-ce que le gaullisme a existé? Pour que le gaullisme ait une survivance, il faut qu'il ait eu une substance. Or, le gaullisme a beaucoup été un pragmatisme. Bon, il y a beaucoup de sujets sur les questions économiques, sur les questions politiques, y compris sur les questions européennes, sur lesquelles il y a eu, au fil du temps, des positions très différentes, en distinguant de surcroît le de Gaulle de 40 du de Gaulle de 58. Bon, mais s'il n'y a pas nécessairement une existence du gaullisme, il y a une mystique gaulliste. L'idée d'une certaine idée, et Natacha vient de l'évoquer, une certaine idée de la France autour de son indépendance, une certaine idée de l'État autour de son d'un interventionnisme économique et d'une impartialité, une certaine idée de la politique, d'une certaine grandeur, de la souveraineté populaire. De cette idée-là, il ne reste pas grand-chose. si on veut être honnête. Donc, qu'est-ce qui reste peut-être au final du gaullisme? Je ne dirais même pas des institutions, je dirais le président, l'élection du président de la République au suffrage universel direct. Le couple franco-allemand, quand même lancé par De Gaulle en 1963 au traité de l'Élysée, et puis la dissuasion nucléaire. Pour le reste du gaullisme, je crois, après on peut le regretter ou ne pas le regretter, mais il ne reste pas grand-chose.
Natacha.
Pour revenir sur tout ce qu'a évoqué Gilles et qui définirait la mystique gaullienne, je pense qu'elle se concentre autour de l'idée de souveraineté. Et c'est sans doute pour ça que, évidemment, il n'en reste pas grand-chose, puisque c'est un mot qui avait disparu du vocabulaire politique, qui est réapparu en partie... par exemple, dans la bouche de Philippe Séguin au moment du traité de Maastricht, et qui ensuite a été transformé en cette notion de souverainisme qu'aujourd'hui personne ne comprend et que certains résument par du mauvais bord, d'extrême droite, etc. Ce qui ne veut plus rien dire. Or, au cœur de la pensée gaullienne, il y a en effet l'idée de la souveraineté nationale et de la souveraineté populaire. Et ce n'est pas pour rien que c'est dans la constitution de la Ve République, la démocratie se confond avec... cette articulation entre souveraineté populaire et souveraineté nationale.
Même si on a pu en parler, comme le faisait François Mitterrand, d'un coup d'État permanent.
Alors après, il y a l'ensemble de la déclinaison des institutions, bien sûr, sur lesquelles on peut débattre.
Le gaullisme n'a jamais existé.
Même les institutions ne sont plus à ce qu'étaient les institutions gaulliennes de la Ve République. Elles ont été totalement modifiées, tous les équilibres ont été bouleversés. Et la façon de penser la place du président de la République, son rapport au Parlement, tout cela a été modifié. Non, il me semble qu'il ne reste plus grand-chose véritablement du gaullisme. Ne serait-ce que parce que chez De Gaulle, tout cela était lié à une vision de l'histoire et à une imprégnation totale de l'histoire, ce qu'on ne trouve absolument plus aujourd'hui chez les politiques.
Alors, si l'on réduit la question du gaullisme à la question de la souveraineté...
Je ne la réduis pas, je dis que c'est le cœur.
Si c'est le cœur, la question est-ce qu'il peut y avoir un retour du gaullisme sous une forme de renouvellement de la question de la souveraineté? C'est-à-dire que la souveraineté nationale se transfigure, ou en tout cas s'élargit en souveraineté européenne, et la souveraineté populaire, qui s'exprimait beaucoup du temps de De Gaulle par le référendum, par une forme de démocratie délibérative plus continue, auquel cas, et bien de manière peut-être paradoxale,
Ségolène
on peut
Royal
assister dans les prochaines
années.
Non, pardon, mais là, il y a des choses que
je ne pensais pas nécessairement
mais
à Ségolène Royal.
Mais je voulais vous poser la question de savoir s'il y avait des héritiers, justement.
Non, il n'y a pas d'héritier, mais en revanche, il y a la possibilité de penser les choses exactement comme vient de le formuler Gilles, et je pense qu'il faut repenser toutes ces questions-là à l'aune des conditions contemporaines.
Cela dit, je pense que si le général de Gaulle revenait aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'il correspondrait totalement... Non, je suis pas sûr qu'il correspondrait totalement à l'époque non plus.
Peu importe, il y a une manière gaullienne de penser à l'époque contemporaine.
Le duel continue.
France Inter. Le grand face-à-face, le duel.
You have stolen my dreams.
Vous avez volé mes rêves et mon enfance avec vos paroles creuses. Nous sommes au début d'une extinction de masse et tout ce dont vous pouvez parler, c'est de l'argent et du conte de fées d'une croissance économique éternelle. Comment osez-vous ?
Vous avez reconnu cette voix, Natacha ?
Ah oui, how dare you ? Tout le monde a entendu cette phrase, bien
évidemment,
sûr.
Évidemment, le monde entier a en tête ce discours furieux de Greta Thunberg. C'était l'année dernière devant les Nations Unies, une prophétie qui place la collapsologie au centre du débat public. La collapsologie, ce concept qui est devenu incontournable et qui réunit de plus en plus d'adeptes. Selon une enquête IFOP pour la Fondation Jean Jaurès, 65% des Français croiraient à la thèse d'un effondrement de notre civilisation dans les prochaines années, je crois, Gilles, si j'ai bien regardé cette étude. Malgré tout, est-ce que ce concept de collapsologie, pour vous, est utile, indispensable pour qui veut penser ou prendre au sérieux les questions liées à l'accélération du réchauffement climatique et de la dégradation de l'environnement?
Alors, ce qui est frappant, c'est que l'imaginaire de la collapsologie est passé en l'espace de quelques années d'une petite minorité qui pouvait être regardée avec amusement autour de quelques chercheurs et de quelques responsables politiques, à une majorité de Français un peu tétanisé. Ce chiffre de 65% que vous évoquez de Français qui disent la civilisation telle que nous la connaissons va s'effondrer dans les années à venir est très supérieur à ce qui existe dans la plupart des autres pays. On est à 56% au Royaume-Uni, 39% en Allemagne. Donc il y a vraiment, alors ce qui sont malgré tout des...
Encore un trait de caractère de pessimisme français.
De pessimisme français. Alors après, ce que l'on peut en penser, ce qui m'inquiète dans la collapsologie, c'est à la fois ce qu'elle est et ce qu'elle produit. Ce qu'elle est, c'est-à-dire un discours millénariste qui ressemble à beaucoup de discours millénaristes sur des sujets les plus divers que l'on a entendus depuis des siècles. Une méthode qui repose non seulement sur la raison, mais revendiquée par ses promoteurs eux-mêmes sur l'intuition et ses excès, notamment l'idée de ce qu'ils appellent le tipping point, c'est-à-dire le moment où tout va s'effondrer d'un coup. Bon, et ce que je reproche par ailleurs, et davantage encore, c'est ce qu'elle produit, c'est-à-dire pour ceux qui y croient, un risque de démobilisation, et pour ceux qui n'y croient pas, la facilité de la diabolisation au risque de remettre en cause ce qui est l'essentiel, c'est la gravité du changement climatique et la nécessité de prendre rapidement des mesures pour y faire face.
Avant de donner la parole à Natacha, pourquoi risque de démobilisation? Au contraire, ça peut être une manière d'inciter à agir et de manière urgente pour éviter l'effondrement annoncé.
Bah, si vous pensez que le monde va s'effondrer, et pour la majorité de ceux qui pensent ça, c'est dans les 20 années qui viennent, donc c'est demain. Bah, si ça va s'effondrer, eh bien, le risque du repli sur soi et de chacun organise, c'est les survivalistes, sa propre petite résistance dans son petit coin, c'est le risque de la solution et qui n'en est pas une.
Ceux qui veulent survivre à la fin du monde. Natacha.
Mais il y a différentes manières de penser la question de l'effondrement des civilisations, mais il me semble que en juillet 1914, à mon avis, on aurait eu raison de croire à la collapsologie, parce qu'en effet, quelque chose est mort de la civilisation européenne, dans un effondrement comme il aurait été impensable de l'imaginer avant. Et la phrase de Valéry, nos autres civilisations, nous savons désormais que nous sommes mortels, nous raconte là. Mais à mon avis, en 410 à Rome, ça devait être pareil. Je pense qu'on pouvait aussi considérer qu'un effondrement des civilisations est pensable. Tout le problème est de savoir justement comment on le pense. Et il y a une dimension parfois folklorique dans la pensée de la collapsologie contemporaine. En effet, ce sont ces survivalistes qui essayent d'imaginer l'effondrement de toutes les ressources, des énergies, etc., et qui vivent avec des cordes et des couteaux dans leur coffre de voiture. Bon,
mais il y a aussi une dimension scientifique. Celle notamment des travaux du GIEC, par exemple, sur l'accélération du réchauffement climatique, qui montre que la catastrophe a commencé.
Il me semble qu'il faut penser l'évolution ou la fin des civilisations dans tous les domaines. C'est-à-dire que nous sommes confrontés à un effondrement dramatique, par exemple, de la biodiversité, à des bouleversements qui sont totalement majeurs et qui sont de grande ampleur. Je ne pense pas que ça se joue en termes de chronomètre. La question n'est pas de savoir à quel moment ça va basculer, mais nous devons penser absolument ces bouleversements. Mais il faut aussi penser les bouleversements philosophiques, les bouleversements idéologiques. Sommes-nous encore dans la civilisation européenne de l'humanisme et des Lumières? Parce que tout ça se joue ensemble. Et si nous voulons anticiper ce que vont être les années à venir, il faut tenir compte de l'ensemble de ces facteurs pour essayer de penser au maximum un monde vivable dans ces données-là. Et c'est cela qui est complexe. C'est pour ça que je pense que réduire ça à la collapsologie me semble un peu problématique, parce que ça oublie le reste des évolutions. On se focalise uniquement sur cette idée d'effondrement pour des causes soit environnementales, soit pour certains immigrationnistes, parce qu'il y a plusieurs... l'effondrement dans l'imaginaire, et l'étude de la Fondation Jean Jaurès le montre très bien, dépend de la vision qu'on a, de la vision idéologique qu'on a. Mais être capable
certains
de penser l'ensemble des
également.
Évolutions me semblerait plus intéressant.
Gilles Finkelstein.
Oui, peut-être y a-t-il quand même un bon usage de la collapsologie, c'est-à-dire de prendre au sérieux l'alerte qu'elle représente, et de prendre au sérieux les scénarios pour partir de la science et du consensus scientifique du scénario le plus noir des travaux du GIEC. Et il y a une rationalité à partir de cette hypothèse-là et de ne pas l'écarter, quitte à prendre des mesures qui seraient des mesures trop importante parce que, je cite un article de Jean-Marc Jancovici qui est paru il y a quelques jours dans Slate, il dit « le coût d'un faux négatif, c'est-à-dire ne pas réagir par rapport à une catastrophe possible, est infiniment plus grand » que le faux positif, c'est-à-dire de prévoir une catastrophe qui n'arrivera pas. Et donc, je pense que s'il y a un bon usage de la collapsologie, c'est ça, prendre au sérieux le risque de la catastrophe.
Natacha. D'autant plus que là, pour le coup, sans être justement sur les termes catastrophe ou sur ce genre d'idées de chaos, nous sommes face à des bouleversements qui sont absolument majeurs et qui sont en train de changer la possibilité de nos conditions de vie sur Terre. Et la question démographique, la façon dont nous sommes en train d'épuiser les sols, tout cela doit être réfléchi, bien entendu.
Et si on mais parle de la traduction politique, justement,
ce qui est intéressant, c'est d'aller vers cela.
65% des Français, donc, y croient à cette thèse d'un effondrement de notre civilisation dans les années qui viennent. Et pourtant, aucun homme politique ne reprend le mot de collapsologie. Et si l'on pose la question, même aux écologistes, et à l'un de leurs chefs de file, par exemple, Yannick Jadot, il ne veut pas employer le terme, il veut garder un message positif pour parler d'écologie politique.
Je pense que...
C'est une question stratégique ?
Non, je pense que c'est pas seulement une question stratégique, je pense que c'est très important, si on veut réussir la transition climatique, de dessiner un monde dans lequel il est désirable de vivre, et je pense que c'est possible.
Oui, non seulement cela, mais je pense que ça ne doit pas. Je disais, il ne faut pas le penser en termes de catastrophe. Il faut le penser politiquement et en effet définir la civilisation dans laquelle nous voulons vivre, non seulement en termes de consommation, en termes de mode de vie, mais aussi en termes de conception de ce qu'est une vie humaine et de ce qu'est la dignité humaine.
Mais alors pourquoi ne pas changer le système radicalement ?
Ah mais moi je suis pour un changement radical de système, mais qui doit se penser non pas sous le coup de l'émotion ou la peur face à une catastrophe supposée imminente, mais qui doit se penser en fonction de ce que nous entendons comme étant une civilisation vivable avec une conception de l'être humain qui soit décente.
Avant de tourner la page, Gilles.
Mais je pense que si nous voulons réagir face au changement climatique, il est impossible de ne pas avoir un changement radical de notre système de production et de consommation. Et donc c'est vers ce vers quoi nous allons.
France Inter, le grand face-à-face, le duel.
J'avais jamais pensé à arrêter de fumer, parce que je suis encore jeune. Et là, clairement, 10 € le paquet, c'est juste plus possible, quoi. J'ai vraiment, personnellement, l'intention d'arrêter de fumer dans très très peu de temps, là.
Je sais, c'est très cher, mais j'arrive pas à arrêter, hein.
Bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle, chacun se fera son avis, mais dès demain, le prix du paquet de cigarettes devrait augmenter en moyenne de 50 centimes et celui de la marque la plus connue des Marlboro franchira la barre symbolique des 10 €. Une nouvelle hausse est déjà prévue pour décembre 2020 et vous n'êtes pas fumeur, Gilles Finkelstein, même si j'avais promis de ne pas dévoiler votre vie à la plus intime. Vous n'êtes pas fumeur, mais vous vouliez revenir sur cette nouvelle hausse du prix des clopes.
Oui, c'est fait partie des grandes questions de société et de politique publique, je crois, qui sont intéressantes. Le passage symbolique du prix du paquet à 10 €, je crois, est notable. Le gouvernement joue sur ce que les économistes appellent le signal prix. Vous l'avez dit, il y a déjà eu plusieurs augmentations, il va encore y avoir une augmentation avec un certain nombre de conséquences que l'on vient de voir avec cette jeune fille, c'est-à-dire que les difficultés se concentrent beaucoup, beaucoup plus sur les milieux populaires. D'abord parce que, par définition, elles ont moins de moyens, mais aussi parce qu'elles fument davantage. Aujourd'hui, un ouvrier fume en gros deux fois plus qu'un cadre. Jérôme Fourquet avait calculé il y a quelques temps que le cumul des mesures sur l'augmentation du prix de l'essence et d'augmentation du prix du tabac venait réduire à zéro la baisse de la taxe d'habitation. Bon, donc il y a un sujet qui est un sujet de santé publique et un sujet social. En même temps, cette politique anti-tabac, elle a un certain nombre de résultats. En l'espace de 2 ans, le nombre de fumeurs a diminué de plus d'1,5 million. C'est évidemment des progrès qui sont insuffisants. Et on a une situation qui est très paradoxale et en fait qui mériterait qu'on s'y arrête et qu'on y réfléchisse. Pour le dire de manière un peu caricaturale, la France est le pays dans lequel le prix du tabac est le plus élevé et dans lequel il y a le plus de fumeurs.
C'est pas le pays où les prix sont le plus élevés au monde.
Non, dans les grands pays européens...
En Australie, le paquet est au-dessus de 20 dollars.
Alors, disons, dans les pays européens, la France est le pays ou un des pays dans lesquels le prix est le plus élevé et un des pays ou le pays dans lequel il y a le plus de fumeurs. C'est un paradoxe sur lequel il faut s'interroger.
Encore un paradoxe français, Natacha.
Oui, et c'est un sujet absolument passionnant parce que derrière, il y a la question de la liberté humaine. Et souvent, cette question est totalement caricaturée avec d'un côté les gens qui disent qu'ils sont dans le contrôle au nom du bien, c'est-à-dire il faut empêcher les gens de fumer parce qu'on va préserver leur santé, c'est bien, donc tous les moyens sont bons. Et en face, des gens qui expliquent, au nom de la liberté, je proclame le droit à fumer et on se fout de la question de la santé publique. Or, la question est celle de l'articulation entre les deux, de l'équilibre, parce que si on veut parler liberté humaine, on peut aussi estimer que la manipulation de notre volonté par l'industrie du tabac pendant des décennies n'est pas exactement ce qui se fait de mieux en matière de liberté humaine et que donc revenir sur ce type de manipulation me semble extrêmement sain. Donc c'est pas d'un côté les gens qui sont pour la liberté et de l'autre les gens qui sont pour le contrôle. En revanche, ce que je déteste dans les politiques de santé publique actuelles, c'est qu'elles s'appuient sur la culpabilisation. Et que je préférerais qu'elle s'appuie sur la liberté et l'émancipation. C'est-à-dire que trop souvent, derrière le discours sur la nécessité d'arrêter de fumer, de moins boire de boissons contenant de l'alcool, il y a cette idée que il faut empêcher les gens d'aller vers leur mauvais travers et le faire malgré eux. Or, je pense que si l'on sacrifie la liberté humaine sur l'autel du bien et de la santé, on aura perdu quelque chose. Il y a donc un équilibre extrêmement subtil à trouver.
Gilles ?
Alors oui, il y a évidemment un équilibre, et c'est ça la question morale, la question philosophique qui est posée derrière, entre la liberté des individus, leur autonomie, leur responsabilité, et la régulation au nom d'intérêts collectifs, au nom de la santé publique. C'est vrai sur la santé, c'est vrai sur l'automobile, où on a vu en l'espace de 30 ou 40 ans de nombreuses contraintes supplémentaires qui ont pesé sur les automobilistes au nom justement de ces impératifs. La question c'est, derrière, c'est quels sont les outils pour aller dans ce sens d'une régulation. Alors, l'incitation financière, on l'a vu, elle a cet inconvénient-là de peser beaucoup sur les milieux populaires. On verra si elle est efficace. Il y a une incitation morale, ce que vous évoquez tout à l'heure, Natacha. Le paquet neutre, par exemple, qui a eu des effets, alors qu'il n'est pas une incitation financière, qui a une dimension psychologique. La question, c'est comment on équilibre ces différentes dimensions.
Et comment on préserve une notion de plaisir dans l'existence humaine. Or, si le discours d'hygiène et de santé publique oublie cette dimension du plaisir, il ne marchera pas, il ne fonctionnera pas.
À suivre dans le grand face-à-face, le débat avec l'économiste et historien Nicolas Bavret.
France Inter, le grand face-à-face, le débat.
Notre démocratie est-elle en danger? Et si elle était en train de s'effondrer sur elle-même, menacée de l'intérieur par ses propres citoyens, en tout cas tous ceux qui seraient tentés, certains par un pouvoir autoritaire, d'autres qui seraient sous l'emprise du populisme. L'économiste et historien Nicolas Bavret décrète l'état d'urgence dans un essai qui vient de paraître aux éditions de l'Observatoire. Le titre, l'alerte démocratique, et il est l'invité du Grand Face-à-Face ce samedi. Bonjour Nicolas Bavret.
Bonjour.
Et bienvenue. Quand on regarde notre vie démocratique, on voit qu'elle est agitée, qu'elle est secoué par des soubresauts, mais pourquoi être si pessimiste au fond? Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que les institutions de notre bonne vieille 5e République sont solides et que jusqu'à présent, elles résistent à tout ce qui pourrait la menacer?
Mais le problème n'est pas simplement français. Quand on regarde l'histoire de la démocratie, on oublie qu'elle est mortelle et que généralement, elle s'effondre de l'intérieur plus souvent qu'elle n'est battue. C'est arrivé la France en 1940, mais c'est relativement rare. C'est plus souvent la corruption intérieure. C'était d'ailleurs ce qui était arrivé à Athènes avec les démagogues Cléon ou Alcibiade. Et aujourd'hui, je crois que on n'exagère pas le péril. La démocratie est confrontée à deux périls extérieurs, le djihadisme et la démocrature, mais l'issue de cet affrontement va dépendre beaucoup de son propre affrontement avec son problème interne qui est effectivement la corruption intérieure, le populisme et la démocratie libérale. Et ce qu'on a pas compris, illibéral. Et ce qu'on n'a pas compris, c'est que ce projet populiste est un véritable projet populiste et qui est un projet alternatif à la démocratie. Alors là où je crois que je n'exagère pas, c'est que la démocratie libérale, elle s'est installée à partir de la Hongrie dans tout le groupe les pays du groupe de Visegrad. Et quand on regarde aujourd'hui, si vous voulez, ce qui se passe en Europe de l'Ouest, il y a eu le choc de 2016, le Brexit, Donald Trump. Mais quand on regarde l'Europe de l'Ouest, si vous voulez, on a quand même trois pays où on pouvait penser que ces trois pays, par leur histoire, étaient immunisés contre l'extrême droite. On voit ce qui se passe en Allemagne avec la Thuringe, avec le développement d'un certain nombre d'attentats qui sont faits clairement par l'extrême droite. On voit ce qui se passe en Italie avec la poussée non seulement de Salvini mais de Fratelli d'Italia. On voit Vox en Espagne. Ces trois pays où, a priori, on ne pensait pas qu'ils puissent renaître une extrême droite.
Et la France, Nicolas Bavret? Et la France, puisqu'on a présenté justement la victoire à la présidentielle d'Emmanuel Macron comme une manière de résister à cette vague-là, cette emprise-là après l'élection de Donald Trump, après le Brexit justement. C'est comme ça que beaucoup d'analystes l'ont présenté.
Bien sûr, il y a eu un grand malentendu en 2017, le malentendu autour de l'élection d'Emmanuel Macron, parce que après les deux chocs de 2016, Brexit et Trump, on a pensé que la France marquait une forme de coup d'arrêt. Donc ça n'a pas été vrai à l'échelle de l'Europe, comme on a vu par la suite. Et en fait, c'est pas vrai pour la France. Pourquoi ? Parce que et là encore, on a eu une double traduction avec les mouvements des Gilets jaunes et la grève des retraites qui montre qu'il y a une colère populaire extrêmement forte, qui s'est incarnée avec deux mouvements très différents. Et puis, du côté d'Emmanuel Macron, on a une forme de techno-populisme.
Techno-populisme.
Oui, parce qu'il y a un mépris, si vous voulez, pour les élus, les partis, la société civile, l'université, les médias, un pouvoir très autoritaire, technocratique, centralisé, en rupture d'ailleurs avec la campagne de 2017. Et c'est naturel, pourquoi ? Parce que la France, si vous voulez, d'une certaine manière, elle est la plus vulnérable. Un peu comme l'Italie, parce qu'elle cumule 40 ans de décrochage avec l'onde de choc populiste qui est arrivée dans les années 2010, quand le crack du capitalisme mondialisé en 2008 s'est transformé en crack de la démocratie, parce que on a sauvé les banques mais on a perdu les citoyens.
On ouvre la discussion. D'abord Gilles Finkelstein, puis Natacha Polony.
Oui,
Gilles.
Faire preuve d'une sérénité absolue sur la solidité de nos démocraties aujourd'hui, c'est pas faire preuve d'optimisme, c'est faire preuve de cécité. Donc je crois en aucune manière que vous exagérez, au contraire que vous avez raison de sonner l'alerte démocratique, de dire que les démocraties sont mortelles et que le danger bien souvent vient de l'intérieur. Je voudrais revenir sur un point justement qui est, vous dites que les populistes ne gouvernent pas en France, mais que le populisme est déjà au pouvoir. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? C'est-à-dire, dans quelle mesure vous considérez que Emmanuel Macron incarne une forme de populisme ? Et Emmanuel, deuxième question peut-être, Emmanuel Macron a pu, notamment dans l'élection présidentielle de 2017, apparaître comme la solution face à Marine Le Pen, être une espèce de rempart. Est-ce que vous considérez que 2 ans et demi après, il est aujourd'hui un risque ?
Alors déjà la première question, première réponse, Nicolas Bavret.
Le populisme dans les têtes, je crois qu'il est un peu partout. On le voit à l'œuvre dans la justice, on le voit à l'œuvre dans le caractère scientifique. J'ai pris comme exemple l'affaire qu'on a appelée l'affaire Séralini, avec ces rats qui, ces expériences sur une espèce de rat qui développe des tumeurs, et expérience qui a été faite en dehors de toute règle scientifique. On le voit aussi à l'université, avec des formes d'expression identitaire extrêmement violentes et régressives. Quand on interdit de parole Madame Agazinski à Bordeaux, c'est incroyable. Quand on refuse que les suppliantes soient jouées à la Sorbonne, c'est stupéfiant. Et on a le développement, y compris de la part du, si vous voulez, pour le président de la République. C'est quand même étrange d'avoir un président de la République qui méprise son propre parti, sa propre majorité, ses propres ministres, au point de créer chez eux un vrai malaise. Je rappelle que le général de Gaulle, en 1958, qui avait pas un amour excessif pour les partis, les élus, les parlementaires, il s'est donné la peine, à la lumière de l'expérience ratée du RPF, d'organiser un vrai parti qui avait ses qualités et ses défauts, mais qui a structuré la vie politique française pendant un quart de siècle. Et il a prêté attention au Parlement aussi. La Ve République est un régime hybride. Il doit à la fois à la monarchie, à l'Empire et au régime parlementaire, à la République. Mais le général de Gaulle a intégré la partie parlementaire du régime. Donc, c'est ça qui, me semble-t-il, montre bien que ce populisme est à l'œuvre, et il est à l'œuvre aussi par le déchaînement d'un certain nombre de passions. Quand on voit aujourd'hui que dans les rues de Paris, on a de nouveau des manifestations où on peut crier mort aux Juifs, si on veut pas entendre l'alerte, évidemment c'est scandaleux pour les Juifs, mais on sait quand même dans l'histoire, on l'a vu à la fin du 19e siècle, on l'a vu dans les années 30, que quand on commence à crier mort aux Juifs, il y a un problème évidemment pour les Juifs, mais il y a un problème pour l'ensemble des citoyens avec des libertés publiques qui sont menacées. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne veut pas voir ceci, et si pour terminer, quand on regarde le niveau du débat public en France aujourd'hui, je n'ai pas besoin de développer ce qui s'est passé récemment dans les campagnes municipales, il faut reconnaître que le débat public a été complètement vidé de sa substance.
Natacha Polony.
Je vous rejoins totalement sur le constat d'une crise démocratique majeure et sur le fait que, en effet, la démocratie peut disparaître. Je vous rejoins sur le constat selon lequel cette montée des pulsions est un des phénomènes les plus frappants aujourd'hui et qui a partie liée avec la question démocratique. Peut-être que je n'aurais pas le même diagnostic sur les causes de tout cela. Et c'est là que je pense que nous pourrions débattre. C'est-à-dire que il me semble que dans la lecture que vous faites de ce danger, vous expliquez que le danger, c'est le populisme. Or, j'ai l'impression, moi, que ce populisme est un symptôme et que c'est une conséquence, en fait, d'une destruction de la démocratie. C'est pas le populisme qui détruit la démocratie. Ce qui a détruit la démocratie, me semble-t-il, c'est son instrumentalisation au service d'un système économique qui se révèle dévastateur. Et je pense que nous sommes au bout d'un cycle de 40 ans et dans ce cycle, ce qui est la caractéristique principale, c'est le contournement de la démocratie par des instances, alors certaines supranationales, certaines constituées de supposés experts, qui ont petit à petit contourné la volonté populaire. Et que la conséquence de cela, c'est la défiance de la part d'une partie du peuple vis-à-vis des élites. Quand vous citez, par exemple, le cas scientifique de Séralini ne peut produire cela et être entendu que parce qu'il y a chez de nombreux citoyens l'impression d'une puissance des lobbies qui influencent les décisions politiques. Et on peut pas l'en vouloir à ces citoyens quand on voit que, par exemple, sur les pesticides, la décision de l'Union européenne est un copier-coller d'un texte écrit par Monsanto. Donc forcément que ça crée de la défiance. Vous voyez, c'est tout ce système-là que nous payons aujourd'hui.
En fait, je crois que la divergence n'est pas si grande. D'abord, sur les causes du populisme, il faut éviter le manichéisme. Et c'est vrai qu'un des problèmes, c'est qu'après 89 et la chute de l'Union soviétique, on a fait trois erreurs. On a cru que la démocratie de marché avait gagné pour l'éternité. On n'a pas vu l'arrivée du total capitalisme chinois et on a passé son temps à faire que de l'économie en pensant que la politique était terminée. C'était la mode de la fin de l'État, des frontières, de l'histoire et de tout ce qu'on veut. Bon, ça, c'était de grosses erreurs. La partie économique, elle existe assurément. Le socle de la démocratie, c'est la classe moyenne, et quand elle est déstabilisée, c'est là qu'on commence à avoir des difficultés sérieuses. C'était déjà arrivé à la fin du 19e siècle et dans les années 30. La partie économique est incontestable.
Donc vous êtes d'accord avec Natacha ?
Sur cette partie-là, oui. La mondialisation et le choc, l'angoisse de la révolution technologique qui ont été laissées en pilotage automatique et qui ont créé incontestablement des problèmes de revenus, des problèmes de positionnement, des problèmes d'angoisse des classes moyennes sur leur survie et de polarisation des territoires et des individus. Mais il ne faut pas oublier la partie politique. Et il y a une partie proprement politique qui est liée aux problèmes identitaires, au désarroi culturel, à la crainte de l'islam, de l'immigration et à la montée de la violence. Et c'est, pour terminer rapidement, là où on s'est complètement trompé, c'est que ces problèmes sont réels. J'en conviens bien, et que les populistes, quand ils appuient sur ces difficultés, ont absolument raison. Et que c'est pour ça qu'il ne faut pas en rester à la condamnation morale des populismes qui ne sert strictement à rien. Il faut traiter les problèmes qui leur ont permis de naître. Et je suis bien d'accord, ils sont le symptôme d'un mal profond de la démocratie. Cela n'enlève rien parallèlement à leur danger, puisque leur programme, c'est quand même la suppression de la liberté. Et il faut en avoir conscience.
Gilles, je crois que nous partageons l'idée qu'il y a une dimension culturelle au populisme une dimension politique et qu'il y a aussi une dimension économique. Et j'aurais prolongé ce que disait Natacha, parce qu'il y a peut-être un désaccord qui mérite d'être approfondi. Vous dites au début du livre, qu'une des menaces qui pèsent sur nos démocraties est la passion de l'égalité dressée contre la liberté. Est-ce que précisément ce qui est à l'origine de la montée du populisme dans beaucoup de pays, ce n'est pas aussi le sentiment de société inégalitaire, sous des formes très différentes, d'inégalité devant le partage de la valeur ajoutée aux États-Unis avec une croissance qui est accaparée par une petite partie de la population, d'inégalité dans l'accès aux responsabilités, à la mobilité sociale dans un pays comme la France, mais que cette question de l'égalité ou de l'inégalité est aussi beaucoup à l'origine du populisme. Et donc, c'est pas la passion de l'égalité qui est dressée contre la liberté, c'est l'absence ou l'insuffisance de l'égalité qui est aussi à l'origine de ça.
Nicolas Bavré.
Les inégalités sont un problème absolument central, crucial. Ce sont des inégalités en termes de revenus, mais aussi en termes d'emploi, de statut, de génération, de territoire. La situation du capitalisme, évidemment, on ne peut pas dire qu'elle soit acceptable. C'est pas seulement un problème d'inégalité et de redistribution, c'est un problème de production. On a un capitalisme qui aujourd'hui produit une croissance faible, des gains de productivité nuls, des inégalités maximales, et le tout sur un océan de dette, puisque dette publique et privée, on en a maintenant pour 300 000 milliards de dollars, ça fait 3 années de PIB mondial.
Donc, mais affrontez l'objection de Gilles. Vous dites qu'il y a un danger qui est la passion de l'égalité en France, et lui vous dit qu'il y a au contraire un vrai problème qui est celui des inégalités.
Non, mais le problème des inégalités, il existe assurément, mais il faut bien le traiter à partir également du problème de la production. On a un capitalisme qui est devenu un capitalisme de rente, et de rente extrêmement inégalitaire. Donc il faut s'attaquer au problème. La France est un cas très particulier sur les inégalités, puisque je rappelle par ailleurs, c'est pour ça que c'est pas le meilleur pays pour en discuter.
Que, mais c'est le nôtre.
Oui, mais c'est le pays développé où les inégalités sont le moins développées. Ça veut pas dire qu'il n'en existe pas, ça veut pas dire qu'il faut pas les traiter, mais si vous voulez, on a aux États-Unis 1% de la population qui possède 34% du patrimoine.
C'est pour ça que je distinguais les inégalités de revenus ou de patrimoine.
C'est pas du tout ces chiffres.
Plutôt du côté américain, et les inégalités de mobilité sociale dans un pays comme le nôtre.
Il faut réformer dans les réformes à faire. Et il faut évidemment s'attaquer à ce problème du capitalisme, ce problème des inégalités, et retrouver un capitalisme qui soit inclusif. C'est d'ailleurs le problème qui s'était posé déjà à la fin du 19e siècle.
Sauf que ce qui est très frappant, vous parlez de problème de production, et je vous rejoins totalement, et la France est un pays plus encore que les autres qui est confronté à cela. Sauf que ce qui revient systématiquement, il y a un mot que vous employez extrêmement souvent, par exemple quand vous... À chaque fois que vous faites la liste de tous les maux qui accablent la démocratie, de tout ce qui la met en danger, de tout ce qui l'a mise en danger par exemple dans les années 30, c'est le protectionnisme. C'est une sorte de, comment dire, j'allais dire de mal absolu visiblement. Or, je suis très frappée parce que une des causes de la destruction de l'appareil productif français, c'est justement l'abolition totale des droits de douane, un libre-échange généralisé et non régulé. On peut en débattre, mais le protectionnisme, sans analyser quels sont les degrés qui pourraient exister entre un libre-échange total et un protectionnisme total, me semble justement une incapacité à comprendre que la désindustrialisation de la France explique en partie la crise dans laquelle nous nous trouvons.
Mais je crois qu'il ne faut pas être manichéen, et je vous rejoins entièrement sur le fait que ce qu'on a laissé faire à la Chine est complètement absurde, et que l'entrée de la Chine dans l'OMC avec la possibilité de n'appliquer aucune règle a été une catastrophe.
Bien sûr, un simple chiffre. La fin des tarifs douaniers.
Le libre-échange n'a jamais été l'absence de règles. Là encore,
sauf que c'est comme ça que ça a été traduit depuis 40 ans. Et donc, juste un chiffre pour illustrer. Au moment où l'Europe supprime les droits de douane sur le textile chinois, en 3 mois, les importations de pullovers chinois augmentent. C'est plus 450%. Mais, en deux ans, il y a plus d'industrie textile en France.
Je suis absolument d'accord avec vous. Et ça a été une erreur majeure, avec par ailleurs une grande illusion qui était de croire qu'en faisant ça, on allait faire en sorte que la Chine libéralise son système politique, ce qui n'est pas arrivé. Sur le protectionnisme, je rappellerai quand même que c'est certainement pas la solution, parce que maintenant, on commence à le voir. C'est appliqué, les États-Unis généralisent le protectionnisme au monde entier. Qu'est-ce qu'on a réussi à faire? On a divisé la croissance mondiale par deux, ce qui va certainement pas améliorer les problèmes de revenus et d'emploi. On est passé de 4,2 à autour de 2. Et par ailleurs, le commerce mondial est, effectivement, est passé de 5 à 1%.
La politique de Trump n'est pas tout à fait protectionniste. Et encore protectionnisme, une fois, c'est une question de degré.
Exactement comme dans les années 30. De toute façon, c'est connu. Le protectionnisme, ça baisse la croissance et ça diminue le pouvoir d'achat puisqu'on paye des taxes.
C'est là où vous êtes systématique. C'est-à-dire que, encore une fois, le protectionnisme, ça n'existe pas. La question est de savoir quelles sont les filières qu'un pays choisit de protéger parce qu'elles sont trop fragiles pour être mises en concurrence. Ça s'équilibre, puisqu'évidemment, quand on décide de protéger certaines filières, on accepte que les autres pays jouent contre d'autres filières. Donc tout cela ne se joue pas, c'est pas du noir ou blanc. En revanche, ce qu'on sait, c'est que le libre-échange généralisé favorise ceux qui sont déjà puissants et installés. C'est exactement ce qui s'est passé juste avant la Révolution française avec le traité de libre-échange entre la France et l'Angleterre, là aussi sur le textile, et qui a éradiqué les filatures françaises parce que l'industrie anglaise était déjà en avance. Or, tous ces phénomènes-là, on les voit aujourd'hui, et c'est cela qui explique la déstabilisation des classes moyennes. La France a choisi de répondre en préservant son modèle social au risque de créer du chômage de masse quand d'autres pays ont choisi de déréguler leur marché du travail. Mais finalement, c'est tout ce système-là qui aboutit à la déstabilisation des classes moyennes et donc à la fragilisation de la démocratie.
Nicolas Bavré.
Non, le traité de libre-échange entre la France et le Royaume-Uni, hein, il date de 1860, c'est le traité Cobden-Chevalier, au moment de l'Empire...
Il y en a un en 1786 qui avait des conséquences dramatiques.
Je crois que, si vous voulez, le fait que la mondialisation libérale, qui a commencé à la fin des années 70-79, avec les réformes Reagan-Thatcher, avec ensuite, qui a été accélérée par la chute de l'Union soviétique, que ce système ait abouti à des déséquilibres extrêmement profonds, de toute façon, ce sont les faits. Ça s'est terminé par le plus grave krach du capitalisme depuis 29. Donc, c'est certain que et cette mondialisation libérale, de toute manière, elle est terminée, puisqu'on est dans un moment maintenant de démondialisation. Donc, on verra ce que va donner le protectionnisme. Ce qui est certain, c'est qu'il est bien réel. Les droits aux États-Unis sont passés de 3 à 20% en l'espace de 2 ans, et on voit effectivement que la conséquence, c'est que le commerce international baisse et la croissance mondiale baisse avec lui.
On va revenir en France en 2020 et pour le coup, essayer de comprendre ce que vous entendez par alerte démocratique, dans la mesure où, quand vous dites que chez de nombreux citoyens, il y a un désir de pouvoir autoritaire. Lorsque vous dites que chez d'autres, on dénonce le pouvoir en place, on dénonce le pouvoir d'Emmanuel Macron et cette présidence-là, au nom de la démocratie, certains l'ont fait dans la rue, des gilets jaunes qui réclamaient le référendum d'initiative citoyenne, d'autres le font en ce moment même à l'Assemblée nationale, au moment où l'on débat des retraites. Qu'est-ce que vous pensez de cette critique-là? Est-ce qu'elle est recevable et est-ce qu'elle est véritablement une menace pour la démocratie?
Oui, je crois qu'aujourd'hui, pour des raisons très diverses, on a des citoyens qui sont prêts à abandonner la liberté. Alors les uns pour l'égalité, les autres pour la sécurité ou pour lutter contre l'immigration, d'autres encore maintenant pour la transition écologique, parce qu'ils considèrent que les changements apportés sont tellement importants que et doivent être faits de manière tellement rapide que seul un pouvoir autoritaire peut le faire.
Mais ceux qui critiquent la démocratie au nom même de la démocratie.
Alors, la critique de la démocratie, elle est parfaitement naturelle. La démocratie, c'est le pluralisme et la critique. Ce qui est beaucoup plus dangereux, c'est la montée de la violence dans nos sociétés, et y compris dans la société française. Et ça, c'est un véritable danger, un vrai poison. Et de ce point de vue-là, le fait que l'état de droit soit en train de s'effondrer en France est un signe extrêmement inquiétant.
Gilles.
Alors justement, pour rester sur cette dimension plus politique, plus institutionnelle de la crise démocratique, qui correspond à quelque chose de profond, le pourcentage de Français qui considèrent que la démocratie ne fonctionne pas bien, qu'ils ne se sentent pas représentés est extrêmement élevé, et même le pourcentage de Français qui considèrent que la démocratie n'est plus nécessairement le meilleur des systèmes est inquiétant. On l'a déjà évoqué à de nombreuses reprises.
Ça représente à peu près combien de pourcents de la population ?
Dans la dernière enquête que nous avons fait il y a 6 mois, il y avait 36% des Français qui disaient un autre système peut être aussi bon que la démocratie, ce qui est un pourcentage qui est extrêmement significatif. Vous dites que une des causes pour le coup proprement française ou davantage française est la Ve République et la pratique d'une concentration de plus en plus importante du pouvoir au sein de l'exécutif et autour du président de la République, ce qui d'une certaine manière peut être perçu comme une réponse populiste à les populistes qui veulent un pouvoir fort, un pouvoir identifié. Donc est-ce que c'est une illustration d'une dérive populiste, et surtout comment en sort-on ? Oui, il y a tout un chapitre qui s'appelle « Réanimer la démocratie ». Est-ce qu'on est capable de sortir de cette concentration des pouvoirs ?
La question fondamentale, c'est qu'on a deux modèles de démocratie face à face. Enfin, un qui est une véritable démocratie, mais la démocratie, c'est un système complexe et un système avec un mélange de principes hétérogènes. On a évidemment l'élection, le suffrage universel, mais on a aussi des contre-pouvoirs, un état de droit, un principe de modération, une société civile qui doit être vivante, une majorité qui doit respecter la minorité, une minorité qui doit accepter qu'il y ait une majorité. Et c'est vrai que du côté populiste, on explique que la souveraineté absolue du peuple se réduit à l'élection, et que ce qu'on a vu en Hongrie, les contre-pouvoirs, l'état de droit, le respect de la minorité, tout ça n'a aucun sens et doit être supprimé au nom de l'efficacité. Donc, cette tentation, elle est exactement présente d'ailleurs en France comme dans beaucoup de pays, et elle était déjà présente par exemple dans les années 30 où on avait beaucoup de gens qui considéraient que la démocratie libérale était impuissante et que les totalitarismes montraient des régimes qui étaient bien plus efficaces pour traiter les problèmes du moment. Donc c'est vraiment ça le danger, et là où la France, effectivement, est particulièrement exposée, c'est que depuis la Révolution française, où on a voulu fonder la liberté sur une table rase, et donc on a l'État d'un côté et puis le citoyen de l'autre, et rien entre les deux, très grande faiblesse des corps intermédiaires ou de la société civile. Quand l'État est bien dirigé et que le citoyen est prospère, heureux, serein et fier de sa nation...
Ça arrive, ça
dans les années 60, c'est arrivé, oui. Si, ça arrive de temps en temps, ou à la Belle Époque, ça fonctionne. Quand l'État devient paralysé, surendetté, à la fois énorme et impuissant, et que le citoyen est profondément déstabilisé, là, tout se bloque. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Et la manière d'en sortir... Ça n'est certainement pas de centraliser encore plus, d'étatiser encore plus. La manière d'en sortir, c'est qu'il faut faire confiance aux citoyens, ce qui est la raison d'être de la démocratie, c'est-à-dire que c'est le citoyen qui est le garant ultime de la liberté.
Là je vous rejoins absolument. C'est que je pense que nous sommes dans une phase, en effet, j'adore votre idée d'un technopopulisme qui s'appuie sur l'hypercentralisation à la française, sur la puissance de l'État, et la question est de savoir comment on peut former des citoyens émancipés, capables d'user de leur libre arbitre et donc d'être souverain. Mais il me semble que dans votre analyse, vous parlez des démocraties libérales sans peut-être accentuer le fait que la France n'est pas seulement différente parce que elle a une structure, des institutions qui ne sont pas exactement les mêmes, mais peut-être aussi parce qu'elle est une république, ce qui n'est pas exactement la même chose qu'une démocratie libérale. Et le fait que la république s'appuie sur un triptyque, liberté, égalité, fraternité, me semble essentiel. Vous reprenez souvent, Gilles l'a cité tout à l'heure, cette idée que la passion de l'égalité abîmerait la liberté. Or, il me semble que la République repose sur l'idée que les deux sont intimement liés, qu'il ne peut pas y avoir de liberté sans un minimum d'égalité qui empêche les citoyens de dépendre d'autrui et donc de ne pas pouvoir exercer leur liberté. Et que cette liberté, et ça me semble essentiel, n'est pas vue comme le simple droit de faire ce que l'on veut, mais comme un processus d'émancipation. Et enfin, que la fraternité, c'est-à-dire l'idée d'une universalité qui permet justement de créer une communauté, est le ciment de tout cela. Et or, nous voyons dans les démocraties antilibérale actuellement, que l'universalisme est attaqué, notamment par ces mouvements que vous citiez, qui interdisent des pièces de théâtre dans les universités, etc. Nous voyons que la liberté...
On ne peut pas généraliser non plus l'ensemble de la France.
Non, mais il y a un mouvement actuel, qui est un mouvement qui est totalement minoritaire, mais qui se répand, de remise en cause de l'universalisme au nom des identités, et qui me semble très dangereux. Et la liberté n'est plus vue que comme la liberté du consommateur. C'est-à-dire que je pense que le capitalisme consumériste est en train de détruire la vision d'une liberté émancipatrice. Il me semble que c'est donc de la reconstitution de ce triptyque, dans son équilibre, qui peut être une réponse.
Nicolas Babray.
D'abord, la grandeur de la démocratie libérale, c'est qu'elle obéit vraiment à la liberté, donc elle est extrêmement diverse. Quand on regarde les trois grands pays qui l'ont inventée, le Royaume-Uni, les États-Unis et la France, c'est vrai qu'on a deux républiques. La République aux États-Unis est une république, j'allais dire, depuis le début, et en même temps, les valeurs sont très très différentes des valeurs de la société française. Et du côté du Royaume-Uni, on a une monarchie constitutionnelle. Donc, la première chose, c'est de bien voir qu'il n'y a pas de modèle de la démocratie libérale, c'est pluraliste, et c'est comme ça que ça doit marcher. La France est une histoire extrêmement singulière, et je vous rejoins totalement sur ce que j'ai toujours trouvé que la devise de la République française était magnifique. Donc, on a la tension entre la liberté et l'égalité qui est réconciliée par la fraternité, et c'est de fait quelque chose d'extrêmement puissant et qui correspond à la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est-à-dire le début qui est la partie libérale de la
République. Oui, mais vous voyez, les émotions qui dominent sont la peur, la colère, la haine.
Vous dites la tension entre la liberté et l'égalité. Moi, je dis qu'au contraire, ce qui est intéressant dans la devise républicaine, c'est que liberté et égalité ne vont pas l'une sans l'autre. Elles ne sont pas en tension, elles se renforcent.
Non, mais il y a quand même une tension. Quand on regarde ce qui s'est passé au XXe siècle, on a bien vu que la passion de l'égalité qui était au cœur du marxisme a quand même donné un régime totalitaire et effroyable. Et donc, oui, la passion de l'égalité peut détruire la liberté. Ça, c'est prouvé par l'histoire, donc il faut en tenir compte. Et ça existe aussi, ça existait en France où à plusieurs reprises, cette passion de l'égalité a menacé la liberté. Mais c'est une tension positive, si vous voulez. C'est une dialectique dont on peut sorti positivement si on prend en compte la fraternité.
Gilles, on est d'accord sur ce point-là. Votre essai est un essai qui est très vaste, à la fois avec une dimension historique, géographique, qui aborde de très nombreux sujets. Il y a un sujet dont vous ne parlez pas, ou quasiment pas, et je voudrais savoir quel effet il peut avoir sur notre démocratie, qui est celui de la crise climatique et des changements que celle-ci va entraîner. Est-ce que vous considérez que cette crise climatique est un risque supplémentaire pour la démocratie qui peut à un moment apparaître comme impuissante à prendre les décisions qui sont nécessaires, ou est-ce que au contraire c'est une opportunité de ressourcer, de refonder la démocratie?
Nicolas Babray.
Enfin, le premier problème que ça pose, c'est le problème du capitalisme. Le capitalisme a trois problèmes. Les inégalités, on en a parlé. Deuxièmement, la révolution numérique. Et troisièmement, le changement climatique. Ce changement climatique, il est effectivement extrêmement urgent. Et il faut avoir... c'est vraiment la priorité. C'est-à-dire qu'on a toute une gamme de problèmes écologiques, la biodiversité, qui se présentent. Et il faut être clair, aujourd'hui, la priorité absolue, c'est d'arriver à endiguer ce changement climatique. Donc ça va supposer de changer très fortement les modes de production, les chaînes de valeur, les organisations. On a parlé tout à l'heure, pour le coup, ça remet clairement, c'est un autre facteur de remise en cause du système de la mondialisation tel qu'il a été mis en place à la fin du XXe siècle. Et c'est vrai que certains vont jusqu'à justifier sortir de la démocratie pour aller vers des régimes autoritaires à cause des changements que ça suppose, changements radicaux chez les consommateurs. Je pense que ça, c'est une énorme erreur. Que quand on regarde là encore un peu l'histoire, on voit que les régimes autoritaires sont ceux qui ont fait les pires catastrophes environnementales. Donc croire que parce que on va avoir sacrifié la liberté, on va mieux protéger l'environnement, c'est de nouveau un marché de dupes. On aura bien perdu la liberté, mais on n'aura pas davantage de protection de l'environnement.
C'est une remarque qui est très souvent faite. Ce sont les régimes autoritaires qui abîment le plus l'environnement. Certes, mais nous avons externalisé notre politique pollution. Et en fait, notre mode de vie abîme beaucoup plus l'environnement. Simplement, nous ne le prenons pas en compte puisque nous ne produisons pas chez nous.
Donc, il est clair qu'il faut mettre fin à l'exportation des déchets ou à l'exportation.
C'est pas l'absence de liberté qui crée de la pollution, c'est la surconsommation.
En tout cas, on pourrait continuer à en débattre parce que le sujet est passionnant.
Mais ce sera le mot de la fin,
Nicolas Babin.
Sur la surconsommation, la consommation responsable, ça peut tout à fait se gérer dans un cadre démocratique. On n'a pas besoin d'un régime autoritaire pour expliquer et faire de la pédagogie. Mais j'en reviens à ce que vous disiez, que ce soit la liberté ou l'écologie, ça passe par l'éducation du citoyen.
Donc il faut imaginer Nicolas Babin optimiste. Je le dis en souriant.
Si vous voulez, dans le thème d'alerte, vous avez le danger, mais vous avez aussi la mobilisation pour essayer de traiter le problème et de le traiter dans un cadre qui respecte la liberté politique.
C'est la fin du Grand Face-à-Face. Merci Nicolas Babin d'avoir été notre invité. L'alerte démocratique est publiée aux éditions de l'Observatoire. Natacha et Gilles, à samedi prochain. Merci à Paola Puerari qui a préparé cette émission. À la réalisation, c'était Marie Mérier. À la technique, Louis Audebert.